Voilà.
OK, parfait.
Merci.
Merci. Un bon français, là. Pas pire.
Et loin.
OK. Bonsoir. Vous allez bien?
Oui,
toi. Si vous me permettez, je vais avancer un peu. Je me sens trop loin ici. Je vais arranger des choses ici. C'est ça, non? Je vais prendre la liberté d'arranger toutes les affaires ici pour Pastor White. Quand il revient, il va tout. C'est bon.
Mettre ça ici.
Donc, c'est un privilège d'être avec vous ce soir. On prie pour vous autres et Pastor White me donne des nouvelles de tout ce que le Seigneur fait dans votre église. C'est vraiment merveilleux de participer à l'œuvre de Christ, hein? Et dans nos églises, c'est bon d'avoir des nouveaux visages. Puis, je peux vous donner des nouvelles aussi de notre assemblée. Le Seigneur, il fait son œuvre aussi dans notre église. On a eu récemment beaucoup de visiteurs, puis le Seigneur est à l'œuvre dans les cœurs aussi pour nous aider à grandir, puis de nous garder unis, hein, par la foi, par l'amour de Christ, par le Saint-Esprit. Et tout le monde va bien à l'église. Et on a des projets qui semblent avancer. On a le grand stationnement qu'on veut refaire. Puis les sous, ça s'accumule tranquillement. Mais on a eu une bonne soumission. Les soumissions étaient entre 75 000 et 85 000 pour faire la réfection de la stationnement. Mais un de ces compagnies nous ont fait un bon deal parce que le fils de Ginette Bérubé, qui est à notre assemblée, il travaille pour une compagnie, puis on dit qu'il peut le faire pour 45 à 48 000, donc dans ce coin-là. Donc, prie pour ça. On n'a pas reçu vraiment une soumission officielle, donc c'est pas officiel, mais il semble que le Seigneur est là pour arranger ces choses pour qu'on puisse avancer avec le projet pour le stationnement à l'église. Mais merci de prier pour ça et merci pour vos prières pour notre famille aussi. Le soutien financièrement, le soutien que vous donnez pour notre famille, pour nos ministères, c'est vraiment apprécié. Et la famille va bien. On a le bébé qui est dû pour le 5 octobre. Donc, merci pour vos prières pour Sarah. Que tout va bien. Puis les projets à la maison, ça avance aussi. On a des projets partout, hein? Mm-hmm. J'ai mon frère Bob avec nous ce soir. Donc, je suis content d'être avec vous. On va aller, on va commencer dans Matthieu chapitre 11. On va aller dans des versets très connus, hein, pour plusieurs, dans verset 28. Après ça, on va aller dans le livre d'Actes. Mais dans Matthieu 11, 28, Jésus qui parle ici, il dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole, la vérité, la lumière dont on a besoin dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, pas juste le dimanche, mais à chaque jour, à chaque instant. Seigneur, fortifie-nous, prépare-nous pour l'œuvre cette semaine que tu veux qu'on fasse pour toi. Par ton esprit, Seigneur, on a besoin d'être fortifié, d'être préparé par ta parole et ton esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dirige mes pensées. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Fatigué, chargé. On connaît ça, hein? On a tous connu ça dans nos vies, fatigués et chargés. Jésus ici dit, venez à moi. On voit une invitation qui vient du Seigneur. On voit dans cette verset une invitation à une vie nouvelle. Et c'est sûr que dans ce verset, on voit le besoin d'un sauveur, un appel pour les pécheurs perdus, à mettre leur confiance dans le Seigneur, à accepter le don gratuit du Seigneur. Et j'espère qu'on a tous franchi cette étape dans notre vie spirituelle. Hein? C'est le premier pas d'accepter Jésus comme sauveur. Mais ça continue. On a une promesse, je vous donnerai du repos. Une belle promesse. On aime tous le repos. Se reposer, c'est bon. Mais Jésus est capable de nous donner un repos spirituel. Et il parle avec des gens qui sont dans leur religion. Ils trouvent, ils essaient d'arriver au ciel par leurs propres efforts, par la religion, par les œuvres. On sait que c'est un grand fardeau que Jésus veut délivrer. Il veut les délivrer de cette fardeau de péché, des œuvres pour le salut. Il veut donner le salut gratuitement. Mais dans verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Là, on voit, ça commence une nouvelle vie avec un nouveau maître. Hein, dans cette nouvelle vie. Avant, c'est qui notre maître? Avant d'être sauvé.
L'ennemi.
Hein?
L'ennemi.
L'ennemi? Le diable? Le péché? All right. Mais là, on a un nouveau maître. Pas un maître dur, mais un maître qui est doux et humble de cœur. Amen. Gloire à Dieu. Avez-vous trouvé Jésus doux et humble, patient? Amen. On a besoin de ce repos, de cette vie. C'est lui qui nous donne la capacité de le suivre. Il dit, prenez mon joug sur vous. C'est une décision, un abandon complètement à la direction du Seigneur dans nos vies. Recevez mes instructions. Pas juste au début, hein? Il ne nous envoie pas voici la liste des choses à faire, puis on va se voir au ciel. Non, il dit, prenez mon joug sur vous, je vais vous instruire en travaillant. Okay? Parce qu'on a vu ça dans le ministère de Jésus. OK, avec qui?
Les disciples.
Les disciples, OK? Et on va voir ça dans Actes bientôt. Mais les disciples, il les a appelés. Il les a formés sur le chantier, si on peut dire ça. Hein? On voit la formation que Jésus a donnée à ses disciples. Et il veut faire la même chose dans notre vie. Par sa présence avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Recevez mes instructions. Comment recevoir les instructions du Seigneur? Par la parole de Dieu. Il faut être à l'écoute puis avoir la parole de Dieu ouverte pour recevoir les instructions du Seigneur. Et il dit que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc c'est en travaillant avec le Seigneur qu'on trouve le repos. Intéressant. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quelle belle image, cette promesse d'avoir Jésus comme maître dans notre vie pour nous diriger. Mais souvent, souvent, dans nos vies, on a aussi nos propres projets, nos propres idées. Une chose à faire dans chaque jour, c'est de donner tous ces projets au Seigneur. De lui laisser nous diriger en toutes choses. Et les disciples qui ont passé ces 3 années avec le Seigneur, ils ont appris à comment faire confiance dans le Seigneur, même quand ce n'était pas clair ce qu'ils faisaient dans leur vie ou dans le ministère. Des fois, il y avait de la misère à comprendre. Puis Jésus, des fois, il ne donnait pas beaucoup d'explications. Il donnait juste une instruction. Et c'est juste d'obéir et de faire confiance dans le Seigneur. Dans les disciples, avez-vous des préférés? Un disciple préféré?
Pierre, peut-être.
Pierre, OK. D'autres? Oui?
Paul, puis Jésus. Jésus, c'est le premier.
OK. Oui?
C'est le maître.
Le maître, OK.
Jésus,
oui.
Le maître.
Mais dans, parmi les apôtres, les disciples...
Jean,
OK. C'est soit Jean ou Pierre souvent. Moi, j'aime Pierre aussi. C'est mon préféré. Pourquoi? Pierre, c'est un homme de... action. J'aime ça, hein? Oui?
Le pire, c'est Judas.
Oh, oui, le pire, oui. Personne ne va dire Judas, si on veut parler, OK? Mais Pierre, c'est un homme d'action. On va voir Pierre. Quand Jésus a trouvé Pierre, il faisait quoi?
Pêcher.
Pêcher, oui, la pêche. Il est allé à la pêche, OK? Un pêcheur et un pêcheur, OK? Est-ce qu'il était fatigué quand Jésus l'a trouvé?
Oui.
Ah, ouais.
Il a passé toute la nuit à pêcher.
Oui. OK, il a pêché toute la nuit, il n'a rien pogné. Puis j'imagine qu'il était fatigué après tout ça. Mais Jésus est venu lui offrir le repos. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Et on a une belle image, un bel exemple dans la vie de Pierre, comment Dieu peut transformer un homme et le préparer pour le servir. Si on tourne dans Actes chapitre 1, on va voir vraiment comment le Saint-Esprit est venu, l'Église est comme formée, la naissance, si on peut dire ça, la naissance de l'Église. Dans chapitre 1, puis on voit l'œuvre du Saint-Esprit dans le peuple de Dieu. Et on voit les apôtres, qui étaient vraiment les leaders, les dirigeants pour cette œuvre. Et on voit dans verset 1, acte 1:1, il dit « Théophile, c'est le récipient de ce livre, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. » Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, on a Théophile qui est Luc qui est en train d'écrire un récit des événements. À Théophile pour expliquer pourquoi Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait. Et dans verset 1, il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Donc, j'aime ça. Il a commencé de faire ces choses. Il n'est pas fini, OK? Il a tout accompli sur la croix pour payer la dette de nos péchés, mais son œuvre n'est pas finie. Il a délégué la continuité de cette œuvre à ses apôtres qu'il a choisis. C'est quoi un apôtre? On a des gens qui se disent apôtres dans nos jours.
Si on veut un délégué de Jésus lui-même.
OK. Un délégué, une personne qui est envoyée avec une mission, une autorité aussi, comme un ambassadeur, une certaine autorité liée avec cette position. Oui, un délégué. C'est bon, oui.
Je pense qu'il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu, Jésus.
Oui, OK. Oui, dans la signification d'apôtre, c'est quelqu'un qui est délégué. Ça dépend aussi sur c'est qui la personne qui l'envoie avec cette délégation. Donc, on a les apôtres de Jésus. Il faut qu'ils soient envoyés par Jésus lui-même. Et on a cette question on va voir ça dans Acte 1. Une question d'apôtres, parce qu'on a 12 apôtres, hein, n'est-ce pas? Il y a combien d'apôtres?
12.
12, si je ne me trompe pas. 12, on va aller dans Apocalypse 21. OK, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc c'est clair, il y a 12 apôtres de l'agneau. On sait ce que Jésus lui-même est appelé apôtre, n'est-ce pas? Ça c'est dans Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frère saint, qui avait parlé de la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. On voit ici, Jésus, c'est l'apôtre du Père céleste. Hein? Donc, Jésus est apôtre. Mais pas dans le même sens que les 12, parce que Jésus était envoyé par son Père, puis les 12 apôtres envoyés par Jésus lui-même. Et donc, les apôtres sont comme des ambassadeurs. Et on va voir ici, dans Actes, on voit ici que Pierre y avait une idée de nommer un apôtre. Okay? Et on va voir dans cette... cet passage que Jésus, ok, il retourne au ciel. Dans verset 4, on va aller là, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Le dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, on voit ici des instructions de Jésus, n'est-ce pas? C'est quoi ces instructions?
De rester à Jérusalem.
Restez là. Attendre. Mm-hmm. OK. C'est difficile quand j'ai de la difficulté avec ce mot. Attendre. Hein? J'aime être à l'action. Hein? Jésus a dit, attends, vous avez besoin, avant d'avancer dans l'œuvre, vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous guider, pour que je puisse vous diriger dans cette œuvre. Donc, on voit ici ses instructions. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce temps... Est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On va essayer, maintenant, est-ce qu'on peut le faire maintenant? Est-ce que tu vas le faire maintenant? Attendre, ok? Attendez-vous. Mais vous recevrez une puissance, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le livre d'Actes, si on continue dans le livre, on va voir comment les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont accompli la mission du Seigneur. Verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et noué le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Ça dit environ 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, on voit ici vraiment une belle réunion de prière. Hein? En entendant le Saint-Esprit, ils priaient. Mais il manquait le Saint-Esprit dans ce temps-là, OK? Pas encore venu. Donc, je sais que le Saint-Esprit, il nous aide à prier, hein? Mais on voit ici, prier pour recevoir ce Saint-Esprit. Verset 15, on voit Pierre. On va voir son projet ici, dans verset 15. « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies avant étant d'environ 120. Et il dit, « Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. » OK? Judas, le disciple, hein? Qu'on n'aime pas trop, hein? Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et lui part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Pas une belle fin pour Judas. La chose était si connue que tous les habitants de Jérusalem que ce champ était appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne désert et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Alors, on voit ici Pierre qui prend la parole. On voit ça souvent, que Pierre prend la parole. Le Seigneur a utilisé Pierre vraiment avec le Saint-Esprit de prêcher des messages avec puissance. Les gens, on va voir, ben, pas ce soir, mais on voit dans le livre d'Actes qu'il a prêché puis des milliers de personnes sont venues au Seigneur. Mais j'aime Pierre parce qu'il fait aussi des échecs. C'est pas un homme parfait. Puis on va voir ici comment Pierre a s'écarté des instructions du Seigneur dans ce passage. Donc, il dit, hey, mes frères, c'est le temps que cette prophétie s'accomplisse. Okay? On va régler quelque chose en attendant le Saint-Esprit. On va régler cette chose. Dans les prophéties, le Seigneur il a besoin de nous pour régler cette affaire. Donc, Judas, il a trahi, des fois ça bloque. Judas a trahi le Seigneur, OK? On voit ici l'explication. Judas est plus là. Mais il fallait qu'un autre prenne sa charge à cause de cette prophétie dans les psaumes. De verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, on voit ici ce que ils ont décidé à faire. Puis quand on lit le passage, la Bible ne nous dit pas que c'est bon ou mauvais qui est fait. Ça juste présente l'histoire de ce qu'ils ont fait. Matthias était nommé comme le 12e apôtre pour remplacer Judas. Mais on sait que plus tard dans le Nouveau Testament, on a l'apôtre Paul qui arrive. Donc, là, on a un problème. On a l'apôtre Paul, qui est vraiment l'apôtre de Jésus-Christ dans ses lettres. Il a commencé avec ça. Paul, l'apôtre de Jésus. Donc, on dit, ça fait 13 apôtres de Jésus. Puis, dans l'Apocalypse, il y a juste 12. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, on voit ici que, OK, avec les mathématiques, ça ne marche pas. Okay. On voit ici qu'est-ce qui est arrivé. Dans ce passage, on voit Pierre qui, au lieu d'attendre, il voulait quelque chose à faire. Et je comprends Pierre, parce que j'aime pas juste attendre. Je veux faire quelque chose en attendant. Mais des fois, hein, le Seigneur nous met dans une place où il faut juste attendre. Et ça peut être pénible à juste attendre. Le secours du Seigneur, parce que dans notre nature pécheresse, on aime prendre le contrôle. On aime régler les choses nous-mêmes. Mais il faut attendre et savoir qu'est-ce que le Seigneur nous a instruit à faire. Donc, les instructions de Jésus, attendre. Restez à Jérusalem, attendre le Saint-Esprit. Parce que vous avez besoin de la sagesse divine que seulement le Saint-Esprit peut vous donner. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Hein? C'est ceux qui vont rédiger le Nouveau Testament par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Pierre, pourquoi il s'écartait, okay, des instructions? Ben, il a commencé à sentir une certaine pression. Pierre, cette pression, j'imagine, ça vient de l'intérieur à faire quelque chose. Okay. faut que ça bouge, faut qu'on fait quelque chose. Juste attends ici, on connaît le caractère de Pierre. Il y a d'autres qui sont contents, juste d'être plus relax. Ok. Est-ce qu'on pense ça? Moi, je ne suis pas de ce caractère. Je bouge tout le temps. Dakota aussi, hein? Ça prend toujours des projets, puis des fois les gens sont fatigués juste à me regarder. Sarah m'a dit, des fois, hey, c'est le temps d'arrêter là. c'est 10 heures le soir, tu peux arrêter de... Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Quand j'arrête, je m'endors. mais c'est correct, c'est bon de travailler fort, d'être à l'action. Le Seigneur, il nous appelle à l'action, hein? Mais à la bonne action, de suivre les instructions du Seigneur. Mais cette instruction d'attendre, Pierre, il y avait le trouble avec ça. Des fois, c'est l'inverse. Le Seigneur nous appelle à l'action, puis nous, on attend. On est réticent des fois, hein? On hésite. Mais ici, on voit Pierre avec une centième pression de faire quelque chose. Il a trouvé une prophétie. Okay, la prophétie dans le psaume, que sa demeure devienne désert et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ça parle de Judas. Il dit, OK, ouais, on connaît cette prophétie. Je ne sais pas si Jésus a expliqué cette prophétie à Pierre, mais il a bien fait le lien entre cette prophétie et qu'est-ce qui doit arriver pour remplir cette prophétie. Mais c'est une question de c'est qui est au contrôle des prophéties et de l'accomplissement de ces prophéties. C'est Dieu qui va vraiment accomplir ces prophéties, ces promesses, c'est pas à nous d'essayer de régler les choses pour lui. Donc, c'est une question de temps. Est-ce que c'est maintenant le temps de remplir ou d'accomplir cette prophétie? C'est seulement le Seigneur qui connaît ses temps. On vient de lire ça dans verset 6. Verset 7. Jésus a dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais Pierre, il dit, oh, il faut que ça soit accompli. Hein? Maintenant, c'est le temps. Okay? Mais dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, d'apprendre à attendre le bon moment pour le Seigneur. C'est une chose importante à apprendre si on veut vraiment suivre le Seigneur et le servir. Mais dans les prophéties, c'est le Seigneur qui va accomplir toutes ces choses. On voit ici que Pierre a mis la priorité sur cette prophétie. C'est maintenant que ça soit accompli. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Pierre a décidé, hey, c'est ce qu'on va faire. Ça nous prend un projet. On va faire ça. On a une prophétie. On va régler cette prophétie. On va accomplir la prophétie. On va choisir un remplacement pour Judas. Moi, j'aime régler les choses. Hein? Quand il y a une chose à régler, let's go, let's do it. On va régler le problème. Mais ce n'est pas la même chose avec le Seigneur. Hein? On n'est pas les maîtres, on est le serviteur. Et c'est le maître qui décide quand et quoi on va faire, où on va aller. Alors, cette prophétie, on va l'accomplir. On va choisir un remplacement pour Judas. Oh, ça prend des critères. Okay? On voit c'est son plan ici. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. OK, on a besoin des candidats. Ça, c'est les critères. Où est trouvé ces critères, Pierre? C'est pas Jésus qui a donné des critères, des instructions pour comment choisir un apôtre, un remplacement. OK, c'est ce que Pierre a décidé. Il n'y avait pas le Saint-Esprit pour lui diriger, pour vraiment lui enseigner c'est quoi les critères. On voit ici que Pierre, il a créé des critères. Des fois, on fait ça dans notre vie spirituelle aussi. On fait des critères de qu'est-ce qui doit arriver, c'est quoi les choix dans nos vies, qu'est-ce qu'on veut. On a acheté notre maison il y a 3 ans maintenant. Puis on avait des critères de ce qu'on voulait avoir. Okay? Puis on cherchait longtemps, on ne trouvait pas la maison qui remplit tous nos critères. Mais c'est parce que notre budget, c'est le budget qui est le critère plus important. Hein? Et si on trouve quelque chose dans notre budget, OK, let's go. mais les critères, ça limite les choix, n'est-ce pas? OK? C'est pas juste n'importe quelle maison qu'on veut. On veut avoir ça, une place pour les enfants, nous, tranquille. On veut quelque chose que... besoin de beaucoup d'amour pour que ça fitte dans notre budget. Okay. Les critères, ça limite nos choix. Donc, avec ce critère que Pierre a donné, il y avait 2 personnes. Okay. C'était très limité là. Verset 23, ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Donc, avec ça, on a 2 choix. OK, c'est bon. On avance. C'est plus simple. Maintenant, on a juste 2 personnes pour choisir pour être le remplacement. On voit ici le plan de Pierre, ses critères, puis les choix qui se sont présentés à cause de ça. Et souvent, quand on commence à donner nos critères au Seigneur, ça limite ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Ça limite le choix. Okay? Ça arrive des fois dans nos vies, dans les situations. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ça ou ça? Okay? Pensez de chemin ou ce chemin-là. Mais souvent, le chemin qu'on doit prendre, c'est hors de notre vue. On ne voit pas le chemin que le Seigneur veut qu'on suive. Mais des fois, on est comme tunnel vision. On a tunnel vision, parce qu'on voit vraiment étroit notre champ de vision, OK? La champ de vision pour le Seigneur, c'est infiniment grand. Pour nous, c'est très limité. Mais quand on commence à prier le Seigneur, il faut qu'on lui laisse tous les choix, toutes les possibilités. Je prie ça souvent, Seigneur, élargis ma vision pour que je puisse voir vraiment ce que tu veux faire, pas juste ma perception de ce que tu peux faire dans ma vie, mais vraiment ce que tu es capable de faire infiniment plus grand que ce que je pense que c'est vraiment possible. Amen. Mais la vie avec le Seigneur, quand on suit le Seigneur, c'est vraiment ses plans, c'est tellement plus grand que ce qu'on peut concevoir. On est très limité. Mais on voit ici que Pierre, il a commencé avec ce projet. Ce n'est pas le bon temps. Ce n'est pas sa place même. Hein? Souvent, on veut régler des problèmes qu'on voit, mais c'est bon d'arrêter et prier le Seigneur. Est-ce que c'est moi qui devrais régler ce problème? Est-ce que je suis la bonne personne pour aider cette personne-là? Donc, il faut que le Seigneur soit au contrôle de tout dans nos vies. Si on veut vraiment avoir le repos. Parce qu'ici, on voit Pierre, il travaille encore pour rien. On va voir ça bientôt. Donc, deux candidats, Justus et Matthias. Verset 24. Puis, ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. » Donc, on voit ici vraiment, ils ont limité les candidats à deux, puis ils disaient, « Seigneur, lesquels tu as choisi? » Et ils ne savaient pas que c'est quelqu'un qui va venir après, que moi je vais aller chercher, je vais le trouver et je vais la désigner sans que vous le connaissiez. Verset 25, mais il dit, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il les parle à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » Donc on va, tirer au sort, c'est une méthode qui était désignée dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il y avait, c'est dans Exode que le Seigneur a instauré cette méthode pour les prêtres, hein, à vraiment discerner la volonté de Dieu. Il y avait les deux pierres, Urim et Thummim, que la prêtre a gardé dans une poche sur l'éphod de la sacrificateur. Puis c'était cette façon que le Seigneur a désigné pour eux de vraiment connaître la volonté du Seigneur dans une décision de main. Mais Pierre, il faisait juste ce qu'il connaissait, hein. Mais le Seigneur voulait diriger dans une nouvelle alliance, pas l'ancienne alliance, mais dans une nouvelle alliance. Et aujourd'hui, on a qui nous aide à savoir, à connaître la volonté du Seigneur? On a le Saint-Esprit, hein? On n'a pas, cette méthode n'est pas, approuvée, hein, pour les croyants. Aujourd'hui, pour l'Église, on a le Saint-Esprit qui nous dirige. Et Jésus a parlé de ça. Je vais trouver le verset. Jean 16, 12. Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et Pierre va bientôt expérimenter ça avec le jour du Pentecôte, quand le Saint-Esprit va venir, puis il va être rempli du Saint-Esprit. Il va parler pour le Seigneur avec puissance. Mais dans chapitre 1, on n'est pas rendu là. Pierre, il n'y a pas encore le Saint-Esprit qui a rempli l'Église. C'est juste avant. Donc, il a choisi une méthode qui ne fitait pas avec le plan de Dieu pour l'Église. Il a choisi une vieille méthode pour essayer de faire la volonté du Seigneur. Et ça m'arrive aussi dans ma vie, hein, quand le Seigneur dit, il monte un problème, j'ai dit, OK, je sais comment régler ça. Hein. On a fait ça il y a un couple d'années, je sais comment faire, là je vais le régler. Comme Moïse, hein, le Seigneur a appelé à frapper la roche pour que l'eau sorte. Mais ça est arrivé une deuxième fois, mais il dit, parlez à la roche. Il a dit, ah non, je sais comment faire. OK, l'eau a sorti quand même. Hein? Mais il n'a pas suivi les instructions du Seigneur. Donc, des fois, quand on rencontre un problème ou une situation qu'on a déjà vécue, souvent, on est plus prêt à prendre l'action sans recevoir les instructions. Mais comme nous tous, Pierre ici était en train d'apprendre. Donc, qu'est-ce qui a produit cette plan, ce projet de Pierre? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a peut-être semé la confusion un peu, hein? Parmi les gens, Matthias, il s'est nommé apôtre. C'est pas on n'a pas de détails de qu'est-ce que ça a fait dans l'Église, dans la vie de Matthias. Il était associé avec les 11 apôtres, mais ils vont voir bientôt que Jésus, il va vraiment nommer son apôtre, l'apôtre Paul, plus tard. Et ça, là, ça peut semer la confusion, qui est toujours l'outil préféré du diable dans notre vie. Hein? La confusion, le mensonge, ces choses, le diable, il veut toujours semer ça dans notre vie. Et la seule façon d'éviter ça, c'est de suivre la vérité, de suivre les instructions du Seigneur. Alors, on ne sait pas comment ils ont réglé le problème maintenant que Pierre a causé. On n'a pas les détails, mais on peut en retirer les leçons, merci. Les leçons, hein. Commencez par prier, hein. Arrêtez, écoutez les instructions du Seigneur. Puis, quand c'est le temps, il va nous instruire. Quand c'est le temps, on peut avancer. Et c'est lui qui est le maître de notre vie. Et on a cette tendance, cette pression à aller prendre l'avance, hein, du Seigneur. Mais en son temps, il va tout régler, toutes les choses. Amen. J'ai hâte pour ce jour, quand le Seigneur va régler toutes choses. Sur la terre, au ciel, mais au ciel c'est tout réglé, hein? Mais sur la terre, il y a plein de choses qu'on peut régler dans nos vies. Il y a toujours des choses à régler, hein? Il y a toujours un pas à une chose à avancer dans nos vies spirituelles. Mais écoutez le Seigneur, en son temps, il va régler les choses. On vit des fois des relations, des problèmes dans les relations, puis on dit, Seigneur, quand est-ce que cette situation va être réglée? Faire confiance dans le Seigneur. Laisse-lui nous diriger à chaque étape. Et quand c'est lui qui règle les choses, il n'y a pas de confusion, n'est-ce pas? Dans le monde, on sort d'un un événement... incroyable, hein, dans notre monde où il y a abondé la confusion, toutes sortes de choses. Mais le Seigneur est capable de vraiment mettre la lumière sur toutes choses dans nos vies personnelles, dans nos relations, dans nos familles, dans nos milieux de travail. Faisons confiance à lui. Laissez-lui agir dans nos vies. Des commentaires, des questions. Je sais qu'il y a aussi des opinions différentes sur, quand on parle des apôtres aujourd'hui, on voit aussi un peu la confusion. Mais la leçon ici, c'est on voit les instructions du Seigneur, puis c'est tout ce qu'on a besoin dans chaque jour. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté, ta patience envers nous. Merci pour les exemples dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste des choses, on ne voit pas juste les réussites, mais aussi les échecs pour nous aider aussi à ne pas perdre courage. Quand nous, on fait des erreurs, on voit ta patience et comment on peut apprendre et grandir. Seigneur, aide-nous à faire confiance en toi dans toutes choses, dans ta présence, dans tes desseins pour nos vies, Seigneur. Et on prie qu'on puisse être toujours sensible à l'écoute de ton Saint-Esprit pour nous diriger et nous garder notre temps avec toi une priorité, notre temps dans ta parole qui nous donne tes instructions, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles à toi. Merci pour ta fidélité envers nous. Et Seigneur, on est vraiment, on veut voir vraiment ton œuvre et le Saint-Esprit à l'œuvre. Comme on voit dans le livre des Actes, on a besoin vraiment de voir ta puissance dans ces jours. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci.